Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Éducation, santé, environnement. Ça fait 10 ans qu'UBS, le sponsor de cet épisode de La Story, s'engage dans les investissements responsables. Alors quand j'entends dire qu'il y aura un avant et un après Covid-19, je sais déjà que pour UBS, l'après se fera comme avant, en faveur de la société. C'est aussi pour ça que j'ai choisi d'y placer mon argent.
Il y a 9 ans, le printemps arabe, la Tunisie se lève contre les années Ben Ali, au pouvoir depuis 1987. En ce 14 janvier 2011, au milieu de la foule, une voix s'élève, gagnée par l'émotion. C'est celle d'Emel Matlouti. On la présente encore comme la voix de la révolution tunisienne, avec un titre resté célèbre dans le pays, Kelmti Ora. Je suis libre et je n'ai pas peur. Je suis la voix de ceux qui ne courbent pas les chines. Je suis le sens au milieu du chaos. Je suis les droits des oppressés qui sont vendus par les puissants. Une révolution est née, la révolution de Jasmin ou la révolution de la dignité. Un mouvement de protestation presque sans violence, même s'il a fait 338 victimes selon un bilan officiel. 9 ans plus tard, que reste-t-il du printemps tunisien ? Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos. Franchissons la Méditerranée direction Tunis et son nouveau président, Kais Saied, qui incarne une forme de renouveau dans le Maghreb. Il y a quelques mois dans La Story, on vous avait fait vivre le ras-le-bol d'une partie des Algériens face à la mainmise de la famille Bouteflika et de ses alliés. De manif en manif, le plus souvent pacifique, jeunes et moins jeunes exprimaient une volonté de changement qui n'était pas sans rappeler la révolution de Jasmin en 2010-2011. Depuis, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts de Tunis à Monastir en passant par Djerba et Tataouine. Un nouveau président s'est installé au palais de la République de Carthage. Il s'appelle Kais Saied, c'est un universitaire et il représente l'espoir de la jeunesse. Bonjour Michel Legrandy.
Bonjour.
Vous êtes rendu à Tunis entre les deux tours de l'élection présidentielle en Tunisie. Alors quel était d'abord l'état d'esprit de la population avant cette importante échéance électorale ?
Eh bien, j'ai trouvé l'ambiance assez lourde cette fois parce que, par exemple, en 2014, il y avait une euphorie qu'on ne retrouvait pas aujourd'hui. C'était un peu comme si les électeurs étaient désorientés. Le premier tour avait donné des résultats que tout le monde voulait, mais en même temps, ça ne faisait plaisir à personne. Ce qui fait qu'il y avait une espèce de chape qui s'étendait à la fois sur la ville, mais qui faisait aussi qu'il n'y avait pas de débat. Pas de débat dans les rues, pas de débat. En fait, cette élection était dans tous les esprits, et en même temps, elle n'était nulle part. C'était très curieux.
La population était éteinte, en fait ?
Alors, la population était beaucoup dans les cafés. Et donc, tout le monde parlait de cette élection. Mais en même temps, parlait sans savoir exactement de qui il parlait, et on va y revenir. Et en même temps, à se demander si finalement, le résultat du vote du premier tour était un bon résultat. C'était un peu ça. Les deux candidats qui sont sortis ont finalement surpris tout le monde.
On va rappeler leur nom.
Alors, il y avait Nabil Karoui, qui est un homme d'affaires qui a une télévision, un groupe de télévision Nesma, et qu'on surnomme souvent le Berlusconi tunisien. Et le deuxième, Kais Saied, qui lui a été élu, qui est un universitaire spécialiste de droit constitutionnel, et que personne ne connaissait quelques mois plus tôt. Finalement, pour revenir à cette ambiance, c'était deux inconnus qui arrivaient en deuxième partie de la course à la présidentielle, l'homme d'affaires en prison et l'universitaire austère, au verbe saccadé, pas du tout sympathique dans sa démarche.
On va y revenir effectivement sur ces deux personnalités avec vous, Michel. Est-ce que ce sentiment un peu pesant que vous avez ressenti, est-ce que ça peut être lié aussi à une économie qui ne se porte pas très bien aujourd'hui ?
En fait, c'est un des points principaux. L'économie est globalement au rouge. Tous les indicateurs le montrent. On a une croissance molle, pour ne pas dire atone. On a des finances qui sont en déficit. Il faut voir qu'aujourd'hui, la Tunisie emprunte pour payer ses dépenses courantes et non pas pour investir, ce qui est quand même assez dangereux. On a aussi une inflation qui ne cesse d'augmenter. Elle est de 7%, ce qui empiète dans le pouvoir d'achat des ménages. Et ces ménages ont vu, depuis 2011, année de la Révolution, leur pouvoir d'achat renier d'environ 50%. Donc, tous ces indicateurs montrent que le pays ne va pas bien et que la gestion des dernières années n'était pas bonne. Alors, quand on dit la gestion des dernières années, c'est surtout celle des deux dernières années où le pouvoir politique s'est surtout intéressé à la gestion des flux macroéconomiques sans forcément faire très attention à la population. Alors pourquoi cette gestion ? Parce que le FMI a consenti un prêt sur 4 ans en 2016 et que le FMI demande des réformes que le pouvoir politique n'arrive pas à mener et tout ça fait que tout est bloqué.
Inflation galopante, chômage des jeunes, ras-le-bol généralisé, pas étonnant que certains rêvent de départ.
Je veux aller en Italie et ne plus revenir.
Vous voulez partir ?
Oui.
Le chômage atteint 33% chez les jeunes, autrement dit, un jeune sur trois de 18 à 25 ans n'a pas de travail. Alors on a pu entendre dans ce reportage de LCI le désenchantement d'une partie de la population. On peut dire, Michel, que Kais Saied constitue, alors pas forcément le dernier, mais un espoir pour la jeunesse tunisienne.
Alors tout à l'heure, quand je disais dans les cafés, tout le monde parle de l'élection, il faut voir que compte tenu de ce taux de chômage, qui est quand même extrêmement préoccupant, tout le monde effectivement se trouve dans les cafés tout le temps. Et donc la jeunesse, qui est, comme toutes les jeunesses du monde, sur son smartphone, qui est très connectée, a vu dans Kais Saied un espoir. Quel espoir ? Celui porté par le candidat de revenir aux idéaux de la révolution de 2011. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre cette révolution et maintenant ? Le pouvoir politique, en général, par des arrangements, par des alliances de court terme, par des tas de combines politiques, a finalement privé le peuple de sa parole. Et aujourd'hui, ce que veulent les jeunes, c'est retrouver les idéaux de la révolution et pouvoir participer de nouveau à la vie politique. Donc, ils ne veulent plus de ces blocs traditionnels. Et c'est là-dessus que Saïd a surfé.
C'était le grand favori de l'élection après le premier tour. Il l'a remporté avec plus de 75% des voix au deuxième tour. En quoi est-ce qu'il incarne un changement ?
C'est un président atypique. Il est atypique sur plusieurs points. Déjà, il ne fait pas partie du sérail. Je le disais, c'est un universitaire. On le connaît très peu. Il est sorti quasiment de nulle part. Il a fait une campagne très low cost. C'est-à-dire qu'il allait sur le terrain, il n'a pas tenu de meeting, il allait sur le terrain écouter les doléances des gens, notamment il allait dans le sud et dans l'ouest, qui sont deux zones rurales, et les ruraux font partie des plus défavorisés en Tunisie. Donc il a été sur le terrain plus que devant les caméras, et de ce point de vue-là, il a ensuite, par son discours, mais qui est un discours extrêmement flou, puisque en fait il n'a pas de programme, il a un projet. Et son projet, c'est de redonner la parole à la base, c'est-à-dire aux Tunisiens de tous les jours, et de pouvoir révoquer les politiques en cours de mandat s'ils ne donnent pas satisfaction. Donc, on peut se demander s'il n'a pas vendu du rêve, auquel cas les jeunes ont adhéré à ce rêve et maintenant il va falloir le concrétiser, ou bien si son projet est vraiment porteur d'un changement profond Pour l'instant, il est encore trop tôt pour le dire.
Il était porteur d'une certaine forme de dégagisme, comme on dit ici en France.
Oui, alors, en fait, le terreau était quand même prêt. C'est-à-dire, plus personne ne voulait des grandes formations politiques. Il faut voir que Nida Tounes, qui était la formation créée par le précédent président, celui qui est mort en juillet, Nida Tounes avait 86 sièges sur 217 à l'Assemblée en 2014. Cette fois, ils n'en ont plus que 3. Ça veut dire que l'électorat, le peuple, a balayé tout ce petit monde politique, vraiment sans arrière-pensée. Il y en avait assez.
Vous évoquiez un moment, quand on discutait avant l'émission, un tourisme politique, c'est quoi ?
Alors, c'est une des spécialités tunisiennes, et on va le voir encore à l'Assemblée cette fois. Le tourisme politique, c'est une façon de nouer et de dénouer des alliances au gré des besoins. On l'a vu dans la période précédente, dans la mandature précédente, et on risque de le voir encore cette fois-ci. Pourquoi ? Parce que, revenons à l'électorat de base, lors des législatives, il a agi comme au premier tour de la présidentielle, il a dégagé les partis traditionnels. Résultat, les deux vainqueurs en termes de groupes parlementaires n'ont que très peu de sièges au Parlement. Ennahda, qui est un parti conservateur issu de la mouvance islamiste, est le vainqueur de ces élections. Il n'a que 52 sièges sur 217. Or, tout le monde va avoir besoin d'une majorité, Ennahda, pour former le gouvernement. Cette majorité est à 109 sièges. Donc, il va falloir trouver des alliances, mais avec qui ? Avec une myriade de groupuscules qui sont entrés à l'Assemblée, qui sont soit des déçus d'Ennahda, et on peut dire que c'est l'aile droite ultra-conservatrice d'Ennahda qui est en embuscade, mais qui aujourd'hui dit oh « ben, je n'aurai jamais d'alliance avec Ennahda », ce sont des religieux. Il y a des groupes salafistes qui se cachent dans les différentes formations qui ont toutes 15, 20 sièges. Donc, il va y avoir un tourisme politique très fort pendant les mois qui vont venir pour essayer à la fois de trouver une majorité pour former un gouvernement et à la fois pour trouver les membres du gouvernement.
Ça ne va pas être facile forcément de faire les réformes dont le pays semble en tout cas avoir besoin selon le FMI. Le nouveau président a eu des mots très forts peu après son élection. Chacun a choisi qui il voulait en toute liberté. Notre projet est basé sur la liberté. L'époque de la soumission est finie. Nous venons d'entrer dans une nouvelle étape de l'histoire. Est-ce que ça veut dire qu'il, à sa façon, il incarne une résurgence de la révolution de Jasmin ?
Alors, il a toujours des grandes envolées. Parce que, précisément, son programme n'est pas du tout détaillé. Je le disais tout à l'heure, il n'a pas de programme, il a un projet. À partir de là, c'est vrai qu'il a de grandes incantations, mais on ne sait pas aujourd'hui ce qui se cache derrière. Est-ce qu'il a vraiment une volonté d'aller plus loin, de changer le système politique et de revenir à une démocratie plus directe, comme il le dit ? Pour l'instant, on ne peut pas le dire, mais ce qu'on peut aujourd'hui dire, c'est qu'il va avoir à un moment donné besoin de l'Assemblée s'il veut réformer la Constitution. Donc, où va-t-il trouver une majorité, puisque lui-même n'a pas de formation politique avec lui ? Il va donc être obligé de se rapprocher soit d'Ennahda. Est-ce qu'il va devenir la marionnette des islamistes ? On n'en sait rien. C'est un jeu qui est aujourd'hui très dangereux. Et c'est peut-être la leçon à tirer de cette élection, c'est que les Tunisiens ont voté, ont chassé les élites politiques, mais sans peut-être se demander ce qu'ils allaient mettre à la place ou ce qui allait se trouver à la place de ces élites. Et aujourd'hui, on est face à ça. J'ajoute que quand Saïed prononce cette phrase, d'une certaine manière, il se félicite aussi du bon déroulement des différents scrutins. Ils sont passés sans contestation, il n'y a pas eu de recours après l'élection. De ce point de vue-là, chapeau à la Tunisie, parce que c'était les deuxièmes grandes élections qui étaient organisées depuis la Révolution, et la démocratie a fonctionné parfaitement.
Bon débarras Ben Ali, c'est entre autres ce qu'ont scandé ces manifestants dans le centre de Tunis ce samedi.
En 2010-2011, les Tunisiens voulaient en finir avec le régime corrompu et népotiste de Ben Ali, comme on l'a entendu dans ce reportage d'Euronews, réalisé un an après son départ. On a souvent assimilé ce mouvement à un désir démocratique. Est-ce qu'on peut dire que la démocratie, du moins telle qu'on la perçoit en Europe, parvient à s'implanter en Tunisie ?
Il faut voir que le pays vient de loin. Ben Ali, c'était un État autoritaire, c'était aussi des ressources qui étaient pillées, c'était tout un système. Donc on est parti de là. Entre le départ de Ben Ali pour l'Arabie Saoudite et aujourd'hui, l'État s'est mis en place. Les institutions se sont créées avec plus ou moins de réussite. Les institutions démocratiques se sont mises en place, et ça, c'est vraiment très bien. La Constitution a été adoptée en 2014, c'est vraiment très bien. Donc, d'un strict point de vue institutionnel, on peut dire que le pays fonctionne, a mis en place ses bases. Donc, là-dessus, il n'y a rien à dire. En revanche, ce qui s'est passé depuis 2011... Ce sont des embauches massives de fonctionnaires qui font qu'aujourd'hui, la Tunisie est un des pays au monde à avoir le plus fort taux de salaire public par rapport au PIB à payer. C'est un handicap énorme, c'est ce que dénonce le FMI notamment, mais aujourd'hui, les fonctionnaires sont en place, ils ne peuvent pas partir. Donc, la Tunisie a un État qui ne fonctionne pas en tant qu'État. Il n'est pas régulateur, il n'est pas, c'est pas lui qui donne les bonnes impulsions. Donc, on est dans ce dilemme. Une démocratie qui s'installe et un État qui s'affaiblit.
On a bien compris que... Alors, je ne vais pas dire que Kais Saied est un choix un peu par défaut. Il incarne une volonté de changement très forte de la part de la population. En même temps, il n'a pas vraiment de projet. Mais si on regarde bien, effectivement, l'autre choix qui s'offrait à la population en deuxième tour, c'était quelqu'un qui était en prison.
C'était un choix impossible, en fait. Et c'était aussi pour ça que l'ambiance était si lourde. L'autre candidat, l'homme d'affaires, est resté en prison depuis la mi-août. Jusque 3 jours avant le deuxième tour. C'est un personnage sulfureux, il le dit lui-même, il a des liens mafieux quand il se moque un peu de lui-même, mais on voyait bien que personne n'osait porter son bulletin en faveur de ce personnage. Un exemple, son frère s'est présenté à la députation dans la région de Bizerte. Son frère est comme Nabil Karoui, il est recherché par la police. Ce qui fait qu'il a fait campagne sans apparaître jamais entre août et maintenant. C'est sa numéro 2 sur la liste qui a fait campagne pour lui. Il a été élu. Normalement, il va pouvoir bénéficier d'une immunité parlementaire pendant 5 ans. Ça veut dire que la famille est quand même assez particulière. Et donc, c'est vrai que les Tunisiens étaient face à un choix entre un homme d'affaires un peu qui s'accommode quand même pas mal de la loi et un universitaire que personne ne connaissait et vers qui personne n'avait envie d'aller.
Ça veut dire que 8 ans après la révolution de Jasmin, aujourd'hui, c'est un peu la déconvenue ?
C'est peut-être, je dis bien peut-être, le retour à la case départ. Et en même temps, inscrire dans une démocratie qui arrive petit à petit à maturité. Retour à la case départ, parce qu'il y a eu un essai de fait avec les formations politiques. Ça n'a pas fonctionné, donc les électeurs ont tout balayé. Et ils recommencent avec des candidats pour le moins neufs. On va voir comment ça va fonctionner. Ce qui est sûr, c'est que la population est prête à ces changements. Elle est prête déjà parce que économiquement, ils veulent autre chose, ils aspirent à autre chose. Et elle est prête aussi à plus de transparence dans la vie politique. Ce qui fait que ce choix, ils l'assument. Comment va-t-il être maintenant mis en musique ? Ça va être vraiment les mois à venir qui vont le dire. Mais aujourd'hui, oui, peut-être on est revenu aux idéaux de 2011. Moi, un politologue à Tunis me disait « ça fait quand même beaucoup, 8 ans pour apprendre la démocratie ». Moi, je lui disais, mais 8 ans, c'est quand même pas grand-chose. Enfin, il faut quand même laisser à tous les esprits le temps de comprendre l'importance de mettre un bulletin dans une urne, les conséquences. Enfin, donc voilà, la Tunisie est à la fois neuve, et là, à la fois, elle a fait un virage à 180 degrés.
L'attaque contre le musée du Bardo est la plus meurtrière de l'histoire de la Tunisie. Un lourd bilan, vous le disiez, au total au moins 18 touristes auraient été tués.
Un dernier mot, Michel. En juin dernier, Daesh a revendiqué 2 attentats suicides qui ont coûté notamment la vie à un policier. Alors certes, on est loin de l'attaque du musée du Bardo de Tunis en 2015, mais est-ce que l'islamisme radical représenté par Daesh peut constituer aussi un danger pour le régime né du printemps tunisien?
Alors clairement, la Tunisie a encore aujourd'hui et toujours un problème de sécurité. L'attentat du mois de juin n'a pas eu vraiment de conséquences importantes. Est-ce que c'était un attentat raté? Si oui, tant mieux. Tout le monde craignait qu'ils ne mettent par terre la saison touristique qui commençait et qui est quand même une source de devises importantes pour le pays, même si aujourd'hui c'est un tourisme très bas de gamme. C'est pas péjoratif ce que je dis, mais ce sont, comme les infrastructures n'ont pas été modernisées, les touristes qui viennent en Tunisie restent dans des resorts et dépensent peu, donc finalement apportent peu à l'économie comparé à ce qui peut être apporté au Maroc, en Égypte ou au Kenya. Cela dit, cet attentat n'est sans doute pas le dernier, j'en sais rien. Tunis est quadrillé de policiers, c'est quand même très compliqué de passer tous les barrages. Mais c'est vrai que toute la partie ouverte sur la frontière avec la Libye laisse passer des trafics, des personnes. Aujourd'hui, la sécurité en Tunisie reste un problème majeur, c'est vrai.
Merci Michel de Grandi, journaliste au service international des Échos. Le 23 octobre, le président de la République, Kais Saied, a prononcé son discours d'investiture. Il a insisté sur le respect de la loi, l'égalité entre tous les Tunisiens ou encore le renforcement des droits des femmes. Il les a aussi appelés à s'unir contre le terrorisme. Et selon un sondage, 59% des Tunisiens ont trouvé excellent son discours et 25% l'ont trouvé bon. Pour l'instant, l'état de grâce se poursuit. La Story, le podcast d'actualité des Échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Nicolas Jean avec Michel Varnet. Tous les épisodes de La Story sont disponibles sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Castbox, Postbin et les autres applications de téléchargement. N'hésitez pas à vous abonner et à partager cet épisode sur les réseaux sociaux. Pour l'actualité en temps réel, c'est sur leséchos.fr.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.